Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. C'est avec beaucoup de joie que je reçois Bernard Ezembert, un homme remarquable. Polytechnicien, ex-mine, conseiller industriel et scientifique du président Georges Pompidou, président de la compagnie financière Edmond de Rothschild, vice-président du conseil de surveillance du groupe Lagardère, président puis vice-président du groupe Bolloré, président de l'école polytechnique, président de l'Institut Pasteur. Vous avez écrit en 1977 le troisième conflit mondial, en 1991 la guerre économique mondiale, en 1994 Pompidou, capitaine d'industrie, et en 2013 une vie d'influence dans les coulisses de la Ve République, pour lequel vous obtenez le prix Saint-Simon. Un parcours d'une très grande richesse, mêlant fonction publique, secteur bancaire, recherche, enseignement, vie littéraire. Et aujourd'hui, vous revenez sur un point cher à votre cœur, l'éthique du libéralisme. Bernard Ezembert, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
En effet, le capitalisme s'est généralisé et il semble, en voyant les différents abus, corruptions, que le libéralisme soit atteint. Est-ce que la morale peut donc intervenir dans la vie politique ?
Elle devrait davantage qu'elle ne le fait aujourd'hui, malheureusement.
Oui, alors, vous êtes président du club des vigilants, et c'est comme vigile que vous criez, que vous dites « attention, danger ». Alors, comment expliquez-nous votre projet ?
Bien, écoutez, quand vous lisez la presse ou quand vous écoutez les médias, il n'y a pas deux jours qui se passent sans qu'un scandale éclate quelque part, un scandale provoqué par le fait qu'un dirigeant important d'un grand groupe ou un dirigeant d'une société de moindre envergure ou un homme politique ou en tout cas un homme d'influence soit accusé d'avoir commis une indélicatesse, menti, trompé, mis les doigts dans le pot de confiture pour ceux qui ont malheureusement la possibilité de le faire. Et ceci est devenu, encore une fois, quasiment quotidien. Et je me demande quel effet cette accumulation de nouvelles permanentes, sans interruption, depuis pas mal d'années maintenant, peut avoir sur les enfants, les étudiants, dont la vie va être modelée par le libéralisme, c'est-à-dire par cette forme de compétition économique entre les entreprises, pour ceux qui iront dans une entreprise, ou qui en subiront quand même les conséquences, même s'ils travaillent dans des secteurs différents. Et d'où l'idée d'essayer de faire en sorte que la morale que nous apprenions à l'école communale, je crois que ça va être de nouveau le cas et je m'en réjouis.
Oui, oui.
Mais je regrette qu'on ait perdu ce tropisme depuis pas mal de décennies maintenant. Donc j'espère que cette morale élémentaire va de nouveau imprégner le monde économique et le monde politique. Et j'ai, une idée force qui consiste à faire en sorte que cette morale soit codifiée dans un texte assez bref, cursif, mais très parlant, texte élaboré par un groupe de personnalités mondiales connues, respectées, de toute nature. On y reviendra, j'imagine, oui. Aussi bien dans le milieu religieux que dans le milieu économique, dans le milieu d'ailleurs des agnostiques ou des francs-maçons. Et donc j'essaie d'organiser une rencontre entre des personnalités de cette nature, de cette qualité, mondialement respectées, pour qu'ensemble elles élaborent un tel texte et que ce texte, finalement, par la vertu de l'exemple, de l'exemplarité, soit respecté et mette fin à ces débordements. Alors je ne rêve pas, je sais bien qu'il y aura toujours...
Oui, parce qu'il y a déjà eu, en 1999, l'élaboration d'un manuel du savoir-vivre ensemble avec Kofi Annan. Alors, vous allez beaucoup plus loin, c'est ça ?
Oui, et puis il y en a eu d'autres. Hein. L'OCDE s'est préoccupé du sujet, vous savez, l'organisme de coopération des grands États occidentaux, des grands et moins grands États occidentaux. L'OCDE s'en est préoccupé, a élaboré un code. Les Nations Unies, l'ONU, a également organisé l'élaboration d'un autre texte qui a d'ailleurs été signé par un petit nombre, entre 1000 et 2000 entreprises, voire davantage. Mais de toute évidence, ces textes ne sont pas respectés. Ils ne sont pas respectés. Au contraire, il y a une espèce d'accélération de ces témoignages d'amoralité dans différents domaines, et d'où l'idée d'organiser une espèce de jaillissement d'un texte élaboré par des personnalités, encore une fois, d'un niveau moral, intellectuel incontesté, pour essayer de créer cette exemplarité et de faire en sorte que cette fois-ci, le texte, qui ne sera pas forcément d'une folle originalité par rapport à tous ceux qui ont déjà été élaborés, pour que cette fois-ci, ce texte produise ses effets.
Donc là, il s'agirait d'un code moral pour le libéralisme.
Pour l'économie de marché.
Voilà. Jusqu'où peut-on aller avec la notion de libéralisme ?
Alors, le libéralisme, c'est la traduction dans le monde économique de la compétition qui anime les êtres humains d'une
certaine
façon, sur tous les plans. Et sa traduction sur le plan économique se traduit par ce système d'économie de marché, par ce libéralisme marchand, qui est basé sur la concurrence, dont on essaye de gommer les effets excessifs par un certain nombre de régulations, et dont on essaye aussi, en théorie, de gommer les effets pervers sur le plan moral, mais encore une fois, sans grand succès de ce côté-là. Alors ce libéralisme, il a énormément de vertus. Il a celle en particulier d'avoir permis l'accession à un minimum de vie décent de milliards d'individus, en laissant subsister des poches de pauvreté, bien entendu, et qui ne sont pas, hélas, ridicules, qui sont composées de centaines de millions d'individus un peu partout dans le monde. Mais au moins, progresse-t-on dans ce domaine et ces poches de pauvreté se réduisent-elles? Et on peut espérer que dans quelques décennies, il y aura toujours, bien sûr, de plus démunis par rapport aux plus heureux bénéficiaires du système, et on peut espérer que ces plus démunis voient leur nombre se réduire à un niveau très, très supportable pour l'ensemble de l'espèce humaine. Alors, on en est loin, j'en conviens, mais il faut donc faire en sorte que ce système continue à produire ses effets. Mais encore une fois, à condition d'en gommer aussi les excès malfaisants, qui font d'ailleurs que les jeunes qui ne savent pas, qui hésitent, qui ne savent pas dans quel domaine ils vont s'orienter, ne soient pas, comment dire, ne deviennent pas hostiles à un tel système et ne se réfugient pas dans des études ne débouchant sur aucun professionnalisme, aucun métier, ou ne se réfugient dans des sectes ou dans des extrémismes religieux.
Oui, parce qu'on voit qu'ils ont du mal à participer à la vie politique déjà.
Alors, il y a d'abord un phénomène général qui est cette espèce de regain d'individualisme que l'on constate un peu partout dans le monde développé. Et puis, c'est vrai, pour une partie de ces jeunes, une forme de méfiance vis-à-vis de ce libéralisme, ce qui n'est pas général. Il y a au contraire, il y a bien entendu aussi beaucoup de jeunes qui essayent d'entrer très directement dans le système en partant faire leur classe un peu partout dans le monde, en quittant les territoires nationaux, ce qui est le cas chez nous. De Français partent, de jeunes Français partent à l'étranger, et je n'en tiens absolument pas grief. Je considère que c'est même probablement une bonne forme de formation que d'aller faire ses classes un peu partout dans le monde, et de fréquenter des systèmes d'enseignement très différents les uns des autres. Mais il y a aussi tous ceux qui, dans le fond, voient le système libéral comme un système qui encourage la fraude, la malhonnêteté, la malversation. Et il faut essayer de mettre fin aux exemples donnés dans ce sens par le système lui-même.
Oui. Alors, est-ce que vous iriez jusque à la devise de Confucius, ne jamais faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on fasse ?
Cette devise est essentielle, encore aujourd'hui.
Oui.
Elle a inspiré beaucoup de religions, d'ailleurs.
Oui.
Et c'est vrai que Confucius a eu une pensée extraordinaire, extraordinairement fertile, notamment au travers de cette phrase. Oui, tout à fait. Et la bonne façon d'y arriver, encore une fois, c'est d'énoncer quelques principes dérivés de cette maxime. Pas trop, parce qu'il faut, je crois, que les choix soient simples. Elles le sont dans leur essence.
Oui.
Elle était quand même un
phénomène. On espère, mais vous avez raison. Ça, c'est une notion qui semble un petit peu éloignée en ce moment.
Hélas,
oui. Alors, vous avez évoquer 50 sages.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques sages ?
Oui, tout à fait.
Parce que c'est déjà intéressant.
Si vous voulez, avant de citer quelques noms, et je vous en citerai volontiers, l'idée, c'est d'abord de créer une réunion de gens, encore une fois, d'une notoriété mondiale incontestée, capables de rédiger ensemble un texte dans un temps relativement réduit. On ne doit pas les enfermer ensemble pendant une semaine en attendant que de la fumée blanche sorte de la pièce.
Ce n'est pas vraiment un conclave.
Une forme de conclave, qui ne peut pas durer plus de 2 ou 3 jours, bien entendu. Et mettre 50 personnes en état de rédiger un texte, mettre un certain nombre de personnes en état de rédiger un texte en 2 ou 3 jours, ça n'est pas aussi facile que cela. Bon, expérience, parce que j'ai participé, dans ma vie, dans tous les domaines, tous les thèmes. Mon expérience me dit qu'au-delà de 50 personnes, un groupe est incapable d'élaborer un texte. C'est bien connu. Et pourquoi 50 ? En fait, c'est entre 30 et 50, d'ailleurs, le bon chiffre. Pourquoi ce chiffre ? Parce que mon idée, c'est que chacun des 7 milliards d'individus de la planète, nous sommes 7 milliards en ce moment, se sente représenté peu ou prou par l'un des 30 ou l'un des 30, 40, 50. Parce que sa religion, son origine géographique, sa couleur de peau, ses opinions religieuses, ses croyances religieuses font que l'un des 30, l'un des 40, l'un des 50
le
représentera. Alors effectivement, je n'ai pas trouvé le terme français, conclave a une autre consonance, c'est vrai. Alors les Américains ont un terme pour ça, c'est summit, qui est le sommet, mais un sommet, qui est un sommet, un super sommet si j'ose dire.
Une montagne magique.
Alors summit, mais comme de toute façon tout se tiendra en anglais une fois de plus, c'est la langue vernaculaire, véhiculaire, summit pourquoi pas. Et donc 30, 40, 50 personnalités peuvent représenter toute l'humanité dans cette quête de la morale du libéralisme. Alors des noms, avant les noms, qui faut-il mettre comme catégorie d'individus dans ce groupe ?
Vous avez évoqué les religions.
Alors il faut bien sûr ne pas oublier les leçons des grandes religions, et d'abord des religions monothéistes, qui ont dans ce domaine quand même accumulé un passé important de comportement, de règles de comportement, de maximes, d'esprit. Et donc les trois religions monothéistes ont un rôle absolument essentiel à jouer, mais pas elles seulement. Je veux dire le bouddhisme, l'hindouisme, l'animisme l'ont également. Et puis il y a quand même des centaines de millions d'individus qui ne sont pas religieux, qui sont même pour certains agnostiques. Donc il faut les représenter également, notamment ceux qui s'oriente vers la franc-maçonnerie, qui a joué aussi un rôle dans l'élaboration d'un certain nombre de concepts de bonne loi. Donc il faut représenter d'abord tout ce groupe de spiritualité appuyé sur une religion, mais pas forcément. Et ça représente déjà, à mes yeux, une vingtaine de personnalités. Hein, quand vous additionnez 7 à 8 personnes pour les religions monothéistes, il faut au moins cela, plus 2 à 3 pour les 4 à 5 pour les religions asiatiques, plus quelques autres, plus encore 4 ou 5 pour les non-religions, vous arrivez déjà à 20-25 personnes, auxquelles il faut ajouter bien sûr des grands scientifiques, des grands philosophes, connus mondialement, notamment par un prix Nobel par exemple, des patrons d'ONG qui sacrifient leur vie au bien commun. Enfin, tout ceci conduit donc à 30, 40, 50 personnes. Alors les noms de ces 30, 40, 50 personnes, je les ai, élaborés, je les ai choisis avec un petit groupe de gens qui travaillent avec moi sur ce thème, et je peux vous en donner quelques-uns.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Thank you.
suis toujours avec Bernard Heisenberg et nous évoquions une charte qui sera élaborée avec 50 sages. Alors, charte n'est pas le mot, on a employé le mot conclave, et ce serait en quelque sorte pour qu'il y ait une humanité beaucoup plus, je dirais, honnête, et qu'on puisse vivre un libéralisme modéré. Est-ce bien cela ?
Tempéré par l'honnêteté, ce qui ne veut signifie d'ailleurs pas que ce libéralisme doive ralentir sa course, ses effets. Je veux dire, on peut parfaitement vivre dans un libéralisme permettant un développement économique intense, tout en dotant ce libéralisme d'un certain nombre de règles de conduite vers un minimum de morale.
Donc vous avez eu l'idée, pour nos auditeurs qui n'auraient pas entendu la première partie, vous avez eu l'idée de faire une sorte de charte avec 50 sages qui se réuniront, alors on ne sait pas encore où.
Alors j'y viendrai, ils vont se réunir l'an prochain à Paris, à l'Institut de France.
À l'Institut de France, oui.
Alors les sages, pour donner quelques noms, du côté notamment des théologiens des grandes religions, monothéistes en particulier, et bien du côté catholique, je pense André 23 participera à cette réunion. Du côté du judaïsme, le grand rabbin Sirat, qui était un grand rabbin de France, qui organise maintenant des réunions sur des thèmes d'ailleurs connexes à Jérusalem, le grand rabbin Sirat m'a donné son accord. Et quelques prêtres protestants également. Bon, j'ai aussi, bien sûr, un ou deux bouddhistes dont les noms ne sont pas forcément connus en France, d'extrême d'Asie du Sud-Est. Alors, du côté des prix Nobel et des sages de l'économie, de la paix, enfin, j'ai Elie Wiesel, son accord. J'ai Stiglitz, qui était un grand économiste américain, prix Nobel américain. J'ai Amartya Sen, autre prix Nobel d'économie. Côté musulman, deux grands mouftis ont accepté de participer à ce conclave, enfin à ce sommet, le grand moufti de Jérusalem et le grand moufti d'Égypte, qui représentent les plus hautes autorités religieuses de chacun de ces deux pays ou de ces régions. Et quelques autres, d'ailleurs, je vous cite quelques noms parmi bien d'autres. Alors, parmi les autorités qui régissent la vie des entreprises au niveau mondial, il faut bien voir que j'ai organisé tout cela il y a déjà plus d'un an, commencé à organiser tout ça il y a plus d'un an. Donc
déjà, vous n'aviez pas travaillé avec Daniel Rondeau pour organiser une sorte de festival.
Tout à fait, ça je vais y revenir. À Fès. Tout à fait, absolument.
Voilà. Donc vous aviez
Daniel
déjà,
Rondeau m'a beaucoup aidé à faire une espèce de répétition de ce que j'envisage maintenant. Et je vais y revenir. Donc parmi d'autres personnalités, j'oublie encore, l'ancien président de la Banque mondiale, Jim Wolfensohn, qui ne l'est plus maintenant, mais qui l'était au moment où j'ai commencé à créer le groupe, le patron de l'Organisation mondiale du commerce, qui est un Français, Pascal Lamy, qui ne l'est plus non plus, là encore, parce qu'il y a le décalage lié, un décalage des personnalités liées au temps. Et voilà, donc j'ai les 50 personnalités, avec un agréable mélange de gens originaires d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, donc de latino-américains, d'Europe, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, de l'autre Asie. En fait, j'en ai plutôt 30, parce que pour l'instant, j'essaie de me cantonner à 30. Le chiffre de 30 étant, me semble-t-il, plus en rapport avec celui d'un groupe de gens capables d'élaborer un texte dans un temps relativement limité. Comment les choses vont-elles se passer ? Ces 30 m'ont donné leur accord, ou plus exactement ont donné leur accord à un petit brain trust de gens qui travaillent avec moi, tous au même niveau d'ailleurs, il n'y a pas de hiérarchie entre nous. Et ce brain trust est constitué d'une association pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié et de respect, qui s'appelle la Fraternité d'Abraham, qui regroupe des théologiens, des religions, pas des théologiens, des adeptes des religions, et aussi des théologiens, mais surtout des adeptes des religions monothéistes, des trois grandes religions monothéistes, avec laquelle j'ai la chance de travailler, qui est présidée en plus par un ancien directeur du CNRS, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié et de respect. Et puis, se sont convertis à cette thèse, chemin faisant, deux académies de l'Institut de France, l'Académie des sciences morales et politiques, représentée à l'époque par son président qui était Bertrand Collomb, et l'Académie des sciences, de laquelle j'avais obtenu un accord par la voix de Catherine Brichignac, qui est toujours sa secrétaire perpétuelle.
Ah, oui.
Et puis l'Institut lui-même, en la personne de son chancelier, Gabriel de Breuil, m'a également donné son accord. Tout ceci pour dire qu'en octobre de l'an prochain, 2016, pourraient se réunir les 30 personnes en question, qui seront peut-être devenues 40 à ce moment-là, pourraient se réunir à l'Institut, dans la grande salle de l'Institut, ces 30 à 40 personnalités, et pendant 48 heures, à l'issue desquelles 48 heures, eh bien, le texte, l'éthique du libéralisme, d'une morale de l'économie de marché, apparaîtrait comme une espèce d'ovni dans le ciel de l'économie. Alors pour cela, il faudra employer des moyens modernes, je veux dire, notamment en termes d'événementiel. Il y a des structures qui savent très bien organiser cela. Je pense que je ferai appel à elles pour essayer de donner un retentissement suffisant à ce texte et à son jaillissement.
Oui, parce que c'est quelque chose de mondial.
Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà contacté deux structures d'événementiel qui sont enthousiastes à l'idée de travailler sur
ce thème. Nous sommes très contents de pouvoir évoquer cela.
Vous avez une autre forme de primeur de...
Mais on vous en remercie
et ça nous fait très plaisir de
participer à ce grand mouvement. Alors, effectivement, on parlait de Daniel Rondeau.
Oui.
Vous aviez déjà organisé à Fès, c'est ça, c'était un festival.
J'ai déjà participé et organisé deux réunions, un petit peu de même nature, enfin surtout la seconde, celle à laquelle Daniel Rondeau m'a apporté son amical appui. La première, en fait, s'est située à Davos, vous savez, cette espèce de vitrine de ce que j'appelle pour ma part la guerre économique, cette confrontation entre les entreprises sur l'ensemble du globe terrestre. Et à Davos, donc, qui réunit tous les ans pendant les vacances d'hiver, enfin au moins pendant l'hiver et pendant 3, 4, 5 jours, le Brain Trust de l'économie mondiale, sous la houlette de celui qui a conçu Davos, qui continue à présider. Alors, j'y vais moins maintenant, mais j'y ai participé abondamment il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. J'y allais chaque année. Et le président de Davos, à l'époque, qui était un ami, me demandait chaque année de prendre en charge une mission pendant Davos. Et une année, il m'a téléphoné. Il s'appelle Klaus Schwab, c'est un Suisse. Mmh. Il a eu l'idée de Davos, qui est une idée... qui s'est révélé extraordinairement fertile.
Oui,
Et donc Klaus Schwab m'a appelé, il m'a dit « Bernard, cette année j'ai une nouvelle mission à vous confier, celle de rapporteur général d'un groupe que je crée, qui sera présidé par le chairman de l'université Harvard aux États-Unis. » Je me suis mis au garde à vous, bien entendu, normalement. Le rapporteur auprès du chairman d'Harvard, c'est stimulant. Et il m'a dit, ce groupe, vous allez, avec le chairman en question, animer un groupe de travail composé d'une quinzaine de présidents des plus importantes universités mondiales. Ce groupe s'appellera le groupe des Academic Leaders et il rendra public un message pour l'humanité pendant la prochaine réunion de Davos. Et nous sommes effectivement réunis pendant 48 heures. Nous avons été enfermés dans une pièce
comme un conclave.
Et nous avons essayé d'élaborer un message pour l'humanité. Vous voyez l'ampleur de la tâche qui nous était confiée.
Oui.
Mais grâce en particulier à l'intelligence et à la finesse du président d'Harvard et à mes travaux nocturnes, puisque je travaillais la nuit pour essayer de mettre en anglais tous les borborygmes qui s'étaient exprimés pendant la journée. Et nous étions quand même, en fait, on était une vingtaine. Moi, j'étais président de l'école polytechnique à l'époque, donc j'avais un titre à être là. Et les 15 autres présidents ou les 14 autres présidents d'université étaient, pour 5 d'entre eux, les grands présidents des universités de la Ivy League ou de Stanford sur l'autre côte. En Europe, il y avait Oxford et Cambridge, il y avait le Max Planck en Allemagne, il y avait l'université de Trieste. En Asie, il y avait Todai, la plus grande université japonaise, des 3 universités chinoises. Enfin bref, nous avons élaboré un texte très concis de 7-8 pages sur l'égalité homme-femme, le non-travail des enfants, enfin sur des choses qui se reliaient quand même aussi à cette morale élémentaire que j'évoquais tout à l'heure, qu'on a un peu perdu de vue. Nous avons amené ce texte, le chairman d'Harvard et moi, à Klaus Schwab, président de Davos, qui l'a lu, qui nous a dit « c'est formidable, c'est ce que j'attendais de vous, c'est un texte merveilleux », et qui l'a rangé dans un tiroir, qui l'a fermé à clé. Alors on lui a dit « mais Klaus, ça veut dire quoi ?» Il a dit « ça veut dire que ce texte est enfermé dans le tiroir où je mets les choses importantes, mais qu'il n'en sortira jamais, malheureusement jamais, parce que entre le moment où je vous ai confié cette mission et maintenant, Davos a décidé de ne jamais émettre de message pour l'humanité. Davos est un lieu de rencontre et pas un lieu d'émission de messages. » Donc, un peu dépité, nous avons rengainé le texte, si j'ose dire. Et là, moi, je suis encore plus dépité que les autres, si j'ose dire, pour la bonne raison que je n'ai pas retrouvé ma copie du texte que j'avais ramené, bien sûr, à Paris, et que je cherche toujours désespérément dans mon grenier, mais que je finirai par retrouver un jour. Mais je me souviens d'un texte très fort que j'avais passé donc deux nuits avec le chairman de Harvard à mettre au point. Ça, c'est la première répétition qui m'a donné l'envie de récidiver, et sur le plan uniquement moral. Et puis, deuxième répétition, à Tanger, à l'occasion d'une autre réunion. Je connaissais Daniel Rondeau depuis peu, et je lui avais parlé de ce projet, et il y a adhéré tout de suite, et ensemble, nous avons décidé de faire une répétition de la préparation de la charte, du texte, enfin des tables de la loi, avec cinq ou six personnalités, et nous avons appelé tous les deux, Daniel Rondeau et moi, le cardinal Lustiger, le grand rabbin Kaplan, et un imam que le roi du Maroc nous a désigné, puisque tout ça se situait au Maroc à l'époque, qui était le grand imam de Rabat. Et nous devions, pendant le festival de musique sacrée à Fès, organiser l'élaboration d'un texte à cinq ou six. J'avais eu l'accord de Rondeau et moi avions eu l'accord du cardinal Lustiger, du grand rabbin Kaplan, enfin. Et juste un dernier mot là-dessus, le cardinal Lustiger nous a appelé peu de temps avant la réunion, quelques jours avant. J'étais à Fès déjà pour préparer tout cela avec Daniel Rondeau, qui lui habitait à Fès à l'époque. Le cardinal Lustiger nous a dit « je suis au désespoir de vous dire que je vais faire retraite dans un monastère parce que je viens d'apprendre une chose épouvantable. » Il venait d'apprendre l'assassinat des sept moines de Tibérine. Et ça a mis fin à cette deuxième tentative.
Donc là, c'est la grande tentative et j'espère vraiment que ce sera une grande réussite. Merci encore Bernard Eisenberg d'avoir lancé ce message depuis Radio Grand-Ciel. Nous en sommes à la fois très émus, très fiers et très heureux. Merci à vous. Je rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Bernard.
Merci Christiane Blain.